Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute. Salut Hugo, salut Mathilde et bienvenue sur l'épisode 3 du Futur c'est maintenant. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, on est encore chez Nova Pulse dans l'accélérateur de startup à Nantes. On s'est rencontrés je crois via une mise en relation au téléphone, on avait des petits sujets RGPD avec mon entreprise. Et c'est vrai qu'Hugo, je me souviens, tu avais tout de suite décroché le téléphone pour me filer un coup de pouce. Et puis on a réussi à bosser un petit peu ensemble. Je suis ravi de vous recevoir parce que la particularité, c'est que vous êtes tous les deux entrepreneurs et vous avez monté respectivement une boîte chacun. Et je vous propose très rapidement de vous présenter, mais c'est Mathilde qui va présenter Hugo et Hugo qui va présenter Mathilde, ça va être plus rigolo. Donc Mathilde, je te laisse présenter Hugo.
Alors bonjour, je m'appelle Hugo, je suis un entrepreneur de 32 ans. CEO de mes, CEO de Rigami. Et voilà, j'habite à La Rochelle depuis peu. Ma ville un peu rêvée où j'allais en vacances. Et voilà, j'y habite maintenant et c'est un vrai bonheur. Et voilà, je suis amenée à aller à Nantes régulièrement pour ma boîte Origami.
C'est la première fois que tu présentes Hugo, Mathilde ?
Comme ça, ouais. J'ai été plutôt sage et gentille avec lui.
Allez, à ton tour du coup, Hugo.
Ok, bonjour à tous. Je sais pas si je vais parler à la première personne. En tout cas, Mathilde a 31 ans.
Ouais.
Elle est consultante RGPD et CEO de Maison Data, qui est une agence de conseil RGPD et protection des données personnelles au sens large. Et Mathilde est une formidable professionnelle qui a fait un parcours hyper intéressant, école de co, et qui ensuite a passé le barreau pour devenir avocat, avocate, et qui a exercé en tant qu'avocate, et puis ensuite qui a lancé sa structure. Et je dirais que Mathilde est quelqu'un de rigoureuse et très persévérante, voire têtue. et voilà, si je devais te résumer en quelques phrases.
Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup ? Merci Hugo. Qu'est-ce qui t'a motivé, Mathilde, du coup, à devenir avocate ? C'est quelque chose que tu avais en toi depuis toute jeune ?
Alors, vraiment pas du tout. C'est vrai que les gens qui sont avocats disent souvent « je voulais faire ça depuis tout petit ». Moi, j'y avais pas songé une seule seconde et c'est vrai que mon parcours ne m'y prédestinait pas. Et petit à petit, à travers mon parcours, j'ai découvert le droit. En fait, d'abord en école de commerce, j'étais partie. Donc, j'ai commencé par des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce.
C'était où ça ?
C'était à Bordeaux.
Ouais.
Donc, moi, j'ai grandi à La Rochelle. Je suis partie à Bordeaux faire mes classes prépa. J'avoue que j'ai commencé par ça parce que j'étais une bonne élève, mais très généraliste, un peu dans toutes les matières. Donc, je me suis dit, bon, bah, la classe prépa, c'est un peu là, on disait à l'époque, la voie royale. Pour voir un peu ce qu'on veut faire par la suite. Et donc, j'ai intégré Schema Business School, l'école de commerce, sur le campus de Nice.
OK.
Et puis, en fait, j'ai vu que Schema proposait un double diplôme droit et commerce. Et je me suis dit, je vais faire ça, ça va compléter ma formation. Donc, c'était proposé sur le campus de Lille. J'y suis allée.
Ah, t'es passée de Nice à Lille.
Oui.
T'as traversé toute la France.
Oui, oui, oui. Très sympa. Les deux régions sont très agréables, d'ailleurs. Et donc j'ai découvert le droit et en fait je me suis prise un peu de passion pour le droit, beaucoup plus que pour les autres matières commerciales finalement.
Ouais.
Et
ta première expérience pro du coup c'était un stage, une alternance avec l'école ou
Oui, tout ouais. à fait. J'ai fait pendant l'été, on nous proposait de faire un court stage et donc j'ai fait un stage chez ERDF, je me souviens, en RH. Voilà, donc. J'ai commencé à toucher un peu le droit à ce moment-là, mais après, je me suis destinée à des matières beaucoup plus commerciales et pas ouais. RH. Donc voilà.
Et toi, Hugo, tu as fait Schema aussi, non ? Pas
ouais,
du tout ?
Ouais.
Vous êtes rencontrés, du coup, j'imagine, pendant les études, non ?
Exactement. C'est là où j'ai eu la chance de rencontrer Mathilde. Moi, j'ai un parcours original, moi aussi. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye.
À Paris.
À Paris, enfin, près de Paris, ouais.
Ouais.
Et après, j'ai vécu à Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, etc. Et pour mes études supérieures, je suis parti. C'était assez clair pour moi, je voulais faire du droit. Ma mère faisait du droit, etc. Et donc, j'avais déjà dans un coin de ma tête d'être pourquoi pas avocat un jour. Et j'ai fait une licence de droit privé à Nanterre, assez classique quand on veut faire du droit en région parisienne. Et puis en fait, au bout de 4 ans de droit, parce que j'ai mis un peu plus de temps que les autres, je me suis dit qu'en fait, c'était pas assez généraliste, touche à tout, etc. Et j'ai passé les admissions, ce qu'on appelle les AST, quoi, admissions parallèles en école de co. J'ai été accepté à Schema. J'ai eu la chance de rencontrer Mathilde, du coup, à mon arrivée à Schema en M1. Et j'ai fait le double diplôme en droit des affaires. Okay. C'était pas mal parce que c'était la continuité de ce que j'avais fait, mais avec un côté business qui me plaisait déjà beaucoup. Et puis ensuite, comme Mathilde, Schema, une petite année de césure au milieu où on a fait, soit des stages pour toi, soit, enfin pour Mathilde, soit un parcours académique en plus encore pour moi. Et à la sortie de ça, on a passé le barreau pour être avocat. C'est souvent ce que font les gens en sortant de droit. Et puis voilà, et après chacun nos parcours respectifs. Et moi j'ai la particularité d'avoir passé le barreau, d'être avocat, d'avoir le diplôme, mais d'avoir jamais exercé contrairement à Mathilde.
C'est vrai, tu m'avais dit, je me souviens.
Je suis parti en consultant déjà à l'époque en protection des données personnelles dès 2016-2017.
Ouais.
Voilà.
Tu m'avais dit d'ailleurs que tu étais passionné du RGPD.
Ouais.
Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire ça et je trouve ça génial parce que quand on a des passions comme ça, ça drive beaucoup d'énergie et ça permet de potentiellement d'apporter beaucoup de valeur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Et qu'est-ce que c'est que d'être passionné par le RGPD Comment ça t'est venu du coup cette passion?
Le RGPD, c'est d'abord et avant tout du droit, hein, c'est du droit de la protection des données personnelles. Et en fait, quand on a fait du droit, on se rend compte à quel point le RGPD est une matière vivante par rapport au droit commercial, au droit civil, au droit de la famille, etc. Et en fait, le RGPD, c'est la protection des données personnelles et c'est dans notre quotidien tout le temps. Donc en fait, pour moi, c'était avant tout déjà être tourné, je pense que c'est une de mes qualités, c'est la curiosité, et c'est d'être tourné vers l'innovation. Et donc du coup, pour moi, c'était vraiment être au cœur des sujets Google Analytics, les cookies, etc. Et il n'y avait aucune matière du droit qui m'apportait ça. Et en fait, c'est devenu une passion. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'après, j'ai fait de l'entrepreneuriat. C'était la porte d'entrée vers l'innovation, en fait. Passionné du RGPD. Alors, je ne lis pas le RGPD tous les soirs avec Mathilde, mais j'aime beaucoup,
ouais. Ouais, du coup, tu as pu le connecter rapidement avec le digital et pas uniquement avec des longs textes ou des politiques de confidentialité qu'on ne consulte peut-être pas assez souvent. Et toi, du coup, Mathilde, quand tu as commencé comme avocate, tu n'étais pas forcément tout de suite en lien avec le RGPD ?
Non, exactement. J'étais plutôt... déjà, j'étais en contentieux.
Ouais.
Ça veut dire que moi, j'allais plaider au tribunal. J'étais plus sur des dossiers avec de la procédure et puis... un peu le côté, la fight du droit, on va dire, et dans des matières commerciales. Donc, par contre, j'étais déjà beaucoup en contact avec les entreprises, je conseillais les entreprises, mais voilà, dans cette partie contentieuse. Et je suis arrivée au RGPD un petit peu après, ouais.
Comment on trouve le job d'avocat? Comment est-ce qu'on postule? Comment est-ce qu'on candidate? J'ai jamais imaginé, on envoie une lettre de motivation, un CV, comment ça se passe?
Alors, c'est assez similaire aux autres secteurs, oui, c'est ça. C'est souvent, il y a des grands cabinets de renom, un peu comme des grandes entreprises, qui nous font un peu rêver quand on est élève avocat. Donc, souvent, on commence à postuler dans ces cabinets-là. On envoie notre candidature, comme on le fait pour d'autres secteurs. Et puis, on voit ce qui se passe. Ou alors, on connaît... ça peut se faire aussi par le biais de l'école, où on peut rencontrer des avocats.
Ouais, c'est plutôt classique.
C'est très classique. Okay. Ouais.
Et combien de temps tu as exercé du coup le... Bah, tu es toujours avocate d'ailleurs, mais combien de temps tu as exercé le métier à proprement parler?
Alors, j'ai exercé 3 ans, on va dire, dans les matières commerciales et contentieuses.
Ouais.
Et là, je suis plus dans le conseil avec le RGPD.
Ouais.
Alors, en théorie, je ne suis pas avocate en ce moment même parce que je ne suis pas réinscrite au tableau et à l'ordre. Mais quand on est avocat, quand on a le concours, enfin l'examen, on reste avocat toute sa vie. C'est-à-dire qu'un jour, je pourrais me réinscrire à l'ordre si j'en ai l'envie. C'est vrai que là, en ce moment, avec Maison Data et tout, je me suis un peu détachée de l'avocature en tant que telle. Et donc, je suis consultante. Mais c'est des métiers voilà, très proches parce qu'en fait, on peut, quand on est avocat, on peut être DPO et conseiller en protection des données.
DPO, tu peux juste nous expliquer ce que ça veut dire.
C'est le Data Protection Officer, donc c'est le délégué à la protection des données. Donc c'est lui qui est là, donc soit en interne dans les entreprises, soit en externe, comme je fais pour Grimp. Qui est là pour driver le projet de mise en conformité, sensibiliser les équipes, former à tout ce qui est la protection des données, qui est un sujet plutôt actuel. Ouais.
Et du coup, toi, Hugo, tu étais DPO, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que Mathilde, tu as dû aussi découvrir le métier à travers Hugo. C'était quoi exactement tes enjeux quand tu étais DPO? Et peut-être que tu peux nous parler de ta première expérience en tant que DPO, ou tu commences tout de suite en tant que DPO, ou ça s'est fait en interne dans une boîte
En fait, à la sortie de mes études, j'aurais dû exercer en tant qu'avocat. Et d'ailleurs, comme disait Mathilde, moi aussi j'ai le diplôme, je pourrais très bien un jour me réinscrire à l'ordre, ou plutôt m'inscrire parce que j'ai jamais été. Tout de suite, je me fais débaucher sur LinkedIn, approché par un cabinet de conseil qui s'appelle TNP Consultant. Et qui a la particularité, à l'époque en tout cas, d'être le seul cabinet de conseil de la place de Paris à avoir une équipe entièrement dédiée à la data protection. Beaucoup le packageaient en termes marketing, mais ce n'était pas le cas. Là, il y avait une équipe de 25 personnes dans un grand cabinet de consulting dédié entièrement à la data protection.
Tu as dû apprendre énormément de choses.
Honnêtement, cette expérience, c'est la folie. Je dois beaucoup à Florence Bonnet, d'ailleurs, qui était la directrice de l'époque et qui m'a tendu la main. Moi, je savais que lorsqu'on fait des études d'avocat, on est obligé de faire des stages. J'avais fait donc quand même 3 stages déjà en tant qu'élève avocat. Et je me rendais compte que la manière dont était pratiquée la data protection, donc le RGPD, par les cabinets d'avocats ne me plaisait pas. C'est comme si j'arrivais et que je te mettais en conformité en te rendant un rapport de 60 pages. Quoi.
Ouais, moi je ne peux pas l'exploiter après à mon échelle. Exactement. en tout cas pour une petite boîte.
Exactement. Et on ne parlait jamais de technique. Ça me choquait. Et là, on me proposait tout l'inverse. Rejoins-nous en tant que consultant, ton manager ce sera l'ancien directeur adjoint du labo de la CNIL, on va parler technique, on va les mettre en conformité des belles boîtes, et du coup ensuite j'ai été placé pendant 3 ans dans des boîtes des belles boîtes, donc LVMH, j'étais le DPO du groupe Les Échos, Le Parisien, Havas, Voodoo, etc., etc. Et là j'ai appris énormément de choses.
Voodoo, c'est une belle boîte de jeux vidéo, je crois, non?
Ouais, c'est une licorne dans le gaming en France, sur les apps notamment, tout ce qui est applications. Et c'était passionnant, quoi. J'ai vu plein de sujets différents, mais j'ai vu aussi qu'au bout de 3 ans, il était temps de voir autre chose.
Ouais.
J'ai hésité entre lancer déjà à l'époque une structure de consulting RGPD DPO, / DPO, lancer ma propre aventure entrepreneuriale. Et j'ai tellement hésité qu'au final, on fait les deux maintenant. Du coup, j'ai lancé mon aventure entrepreneuriale Origami, j'en reparlerai peut-être. Et avec Mathilde, on a finalement continuer ce que j'avais commencé tout seul, mais là on est deux maintenant à faire de la mise en conformité RGPD.
Super, hyper intéressant, et c'est des parcours. Je crois pas qu'il existe toujours des parcours atypiques. On a tous un parcours finalement un peu atypique, mais c'est vrai que vous avez pas suivi une ligne toute directrice et qu'il y a eu différentes expériences connexes. Avant de parler de vos deux boîtes respectives, j'ai une question large un peu à vous poser. Je fais un peu ping-pong, chacun son tour là, Mais du coup, le RGPD sur le respect de la protection des données, là, depuis, je sais pas, ces 10 dernières années, aujourd'hui, en 2022, post-Covid, avec l'émergence de toutes ces startups, la digitalisation qu'on peut retrouver dans beaucoup d'entreprises, comment ça a évolué et c'est quoi pour vous l'avenir du RGPD? Il y a beaucoup de sujets, j'imagine, c'est une question assez large, mais est-ce que vous avez vu... Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a vu arriver le RGPD et on se disait, ah bon, encore une nouvelle loi ou quelque chose qu'ils mettent en place, bon, ça va pas trop nous toucher, on attend de voir. Et puis à un moment, c'est devenu peut-être un peu plus sérieux. Et aujourd'hui, je pense que ça peut même presque devenir un avantage concurrentiel pour certaines entreprises et que les gens, l'utilisateur final ou le particulier, est de plus en plus sensible au respect de ces données, sans forcément parler des GAFA ou des grosses boîtes américaines qui jouent beaucoup sur ces sujets-là. Mais moi, je serais curieux d'avoir votre point de vue sur l'évolution du RGPD et peut-être qu'est-ce qui se passera dans les prochaines années, selon vous, si vous avez des hypothèses à nous partager. Alors, comment on se répartit la parole?
Peut-être sur l'évolution et toi sur l'avenir, parce que du coup, l'évolution, moi, je l'ai vu arriver.
Ouais.
En fait, moi, pour l'anecdote, et c'est là, ça intéressera peut-être les plus jeunes et les étudiants. En fait, moi, le RGPD, c'était mon mémoire de fin d'études en 2014.
Et je m'en souviens. Ouais.
C'était le projet de règlement européen. C'était un projet. Les lobbyistes, notamment les GAFAM, faisaient tout pour que ça passe pas. Et moi, j'avais hérité, comme ça, au hasard, c'était le dernier sujet de mémoire, et j'avais hérité de ce sujet. Et du coup, j'ai bossé là-dessus. Et en fait, ce mémoire de fin d'études a drivé toute la suite de ma carrière jusqu'à maintenant. Donc on est en 2014, ça va faire bientôt 10 ans, quoi. Enfin, 8 ans. Et en sortant de ça, je savais ce qu'était le projet de règlement européen. Et ensuite, ça a déclenché pas mal d'opportunités. Et ça explique pourquoi on m'avait chassé sur LinkedIn à l'époque. Et en réalité, on se rend compte assez rapidement qu'en France, ça fait des années, on était précurseurs en Europe sur la protection des données. Mmh. Depuis 1978, on a une loi, loi informatique et liberté, et qui protège les données personnelles des particuliers. Et en réalité, elle était très peu adoptée par les entreprises. On avait même en entreprise des CIL, des correspondants informatiques et liberté, qui étaient une sorte de documentaliste. Enfin, j'ai rien contre les documentalistes, mais c'était vraiment peu respecté dans les entreprises, avec pas beaucoup de prise de décision.
C'était pas un poste stratégique. Ouais, stratégique. Ouais.
Et donc, depuis 78 jusqu'à 2016, il y a ça. Et puis, en 2016, est publié le règlement européen. On laisse 2 ans aux entreprises pour se mettre en conformité. Il rentre en vigueur le 25 mai 2018. Et là, 24 mai 2018, la veille, les entreprises sont en panique. Personne n'a rien fait.
Ouais.
Et là... Bah évidemment, nous, on a vu la mise en conformité entre 2016 et 2018. On se demandait comment ça allait être appliqué. Entre 2018 et 2020, branle-bas de combat, des audits de partout, des mises en conformité express des grands groupes.
Et vous en parliez ensemble souvent de ces sujets-là tout au long de... Entre vous deux, tout au long de ces... De toute cette historique.
C'était mon métier.
Ouais, partagé à Mathilde.
On n'a pas précisé aux auditeurs, mais Mathilde et moi, on est mariés, ouais. Et on est ensemble depuis maintenant longtemps. et du coup, oui, le soir, on en parlait, mais comme je parlais de mon métier. Alors, ouais. Mathilde comprenait plus que tout le monde, plus que beaucoup de gens, parce qu'elle faisait du droit et on l'avait vu en cours déjà.
Ouais.
Mais oui, on en parlait, mais pas plus que ça. Mais je crois qu'au 25 mai 2018, il y avait eu un apéro pour la célébration de l'entrée en vigueur du RGPD.
Et puis je pense que bah, ça fait un peu la transition, mais je pense qu'on ne pensait pas aussi en 2018 qu'en 2022 ça aurait encore autant d'importance. Tu demandais un peu le futur de la réglementation, et c'est vrai que c'est plus que jamais un peu au cœur des préoccupations des entreprises. Et c'est vrai qu'à l'époque d'Hugo, quand il était consultant, c'était surtout les gros groupes qui s'intéressaient à ça, parce qu'ils avaient aussi les moyens de dédier une partie de leurs finances à ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les plus petites structures, les start-up, les PME, les scale-up, s'intéressent vraiment à ce sujet de protection des données. Et en fait, je dirais que c'est un peu gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, mais tu l'as dit, les entreprises, je pense, ont envie de mieux faire en termes de RSE. Ils ont envie de montrer qu'ils font pas n'importe quoi à des données de leurs utilisateurs. Mais c'est aussi, comme tu le disais, un avantage concurrentiel, parce que c'est un peu le moyen de montrer patte blanche auprès de nouveaux partenaires, clients. Et en même temps, les entreprises, elles, commencent à regarder auprès de leurs fournisseurs si les fournisseurs sont clean et tout. Enfin, il y a vraiment intérêt. Et la dernière partie prenante, c'est effectivement les utilisateurs qui prennent... Je pense que maintenant, ça y est, les gens prennent conscience que leurs données ont de la valeur, qu'on peut savoir énormément de choses sur les gens avec les données et qu'on n'a pas forcément envie qu'elles arrivent entre les mains des services secrets américains, en fait. Donc, en fait...
Américains bon,
ou
russes, j'en sais rien, ou d'autres pays.
C'est clair.
Non, pour Google, Amazon, en tout cas, voilà. Facebook, ou pour les GAFAM, ça peut être le cas. Ouais.
Et c'est qu'on a un pays où, en tout cas, l'Europe a sorti un texte qui inspire un peu qui fait un peu peur au reste du monde. Donc, c'est vrai que c'est intéressant.
Parce que RGPD, c'est la version européenne. Aux US, ça existe. C'est GDPR ou c'est ça la version... On le dit, GDPR, non? C'est la traduction, mais c'est plus niveau Europe, non? Si je ne me trompe pas.
Exactement.
En fait, le GDPR, c'est juste la version traduite du RGPD. Donc, okay. Ça s'applique toujours en Europe. Aux États-Unis, bah, ils ont plutôt une tendance libertarienne à laisser faire un petit peu avec les données.
Mm-hmm.
Ça arrange le gouvernement aussi. Après, ça fonctionne pas mal par État. On sait que l'État de Californie, par exemple, est pas mal avancé sur ces sujets de protection des données personnelles. Donc, sur certaines réformes, ils s'inspirent du RGPD. En Amérique du Sud, en Chine, ils se sont inspirés du RGPD. Mais c'est vraiment le texte qui a le plus haut niveau d'exigence en termes de protection des données personnelles. Et comme c'est un texte qui s'applique... pour toutes les entreprises dans l'UE, mais aussi pour toutes les entreprises qui ciblent des citoyens européens, à notre époque de mondialisation, en réalité, il s'applique pratiquement à tout le monde, quoi.
Mmh.
Donc, pour une fois, l'Europe a un peu l'idée, les choses. Donc, ça, c'est intéressant.
Je crois que j'étais un peu coupé tout à l'heure, je m'en excuse, mais tu étais sur ton parcours là, en tant que DPO, et je voulais savoir du coup la transition entre Origami, la boîte que tu as montée là, et à la fin tu peux peut-être terminer du coup.
En fait, juste je rebondis, ça me fait rigoler sur l'essoufflement du RGPD. Enfin, comme disait Mathieu, en 2018, beaucoup de gens prédisaient finalement un essoufflement un peu de la mise en conformité RGPD, et que le RGPD ne prendrait pas. Il serait lettre morte. Et moi, je me souviens que ma mère, quand j'avais trouvé mon premier job, du coup, de consultant RGPD slash DPO, ma mère m'a dit, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Parce que ça sent le job à la mode. Et elle connaissait les correspondants informatiques et liberté en entreprise qui étaient peu respectés. Elle me disait, ne pas faire avocat pour être consultant RGPD, est-ce que tu n'es pas en train de totalement te gourer, quoi? T'en souviens?
Oui, je me souviens.
Ce que je peux comprendre de son point de vue.
Et du coup, on l'a tellement peu écouté qu'on en a fait une entreprise, du coup, en 2021. Ouais. Donc, maman, si tu nous écoutes. et du coup, pour répondre à ta question, après 3 ans de consultant RGPD, j'ai une idée qui me trottait dans un coin de la tête, qui n'est pas loin, finalement, qui vient un peu aussi du RGPD. Je m'intéressais beaucoup au sujet de portabilité des données personnelles, le fait de demander à une entreprise A d'envoyer ses données personnelles, nous utilisateurs, à une entreprise B. Et en fait, ensuite, je me suis intéressé au sujet de mobilité numérique, de gestion des données. C'est devenu la gestion des contrats, c'est devenu la gestion des abonnements en affinant.
Ouais.
Et du coup, en 2019, j'ai pris le parti pris à l'été 2019 de lancer mon entreprise, qui est donc elle s'appelle Origami. C'est une application de gestion des contrats et abonnements pour les particuliers. C'est une fintech basée à Nantes. À tendance qui vise le grand public, donc plus rien à voir avec mon métier de consultant RGPD pour le coup.
Néanmoins, l'application doit être en conformité, j'imagine.
Néanmoins, grâce à Maison Data, la structure de Mathilde et dans laquelle je suis partie prenante, Origami est conforme au RGPD, ou en tout cas on est en voie de conformité. Et donc voilà, j'ai lancé une fintech B2C en suivant le parcours entrepreneurial assez classique, incubateur, accélérateur, et puis ensuite levée de fonds.
Vous êtes plusieurs associés, t'as lancé ça tout seul ou t'as des cofondateurs avec toi?
Alors l'idée, j'étais tout seul au début. Très rapidement, j'ai senti, j'ai eu le besoin d'être entouré. Et donc j'ai ouvert mon capital et on s'est associé avec Corentin et Florent. Corentin a un parcours de data analyst, il s'occupe de la data et du marketing chez Origami. Et Florent a un vrai parcours de dev et lead dev, et il est CTO chez Origami, donc directeur technique. Et Origami, en gros, c'est donc une application de gestion des abonnements pour les particuliers. Notre mission, c'est de garantir la sérénité financière de nos utilisateurs. Et on leur permet, en gros, de centraliser, gérer et optimiser leurs dépenses récurrentes sur un tableau de bord. Mm-hmm. Le tout est 100% gratuit. Mm-hmm. Ça permet de faire en moyenne 600 euros d'économie par an.
Hyper intéressant. Une question que j'aime bien poser à tous les porteurs de projets, c'est pourquoi ça s'appelle Origami et comment est-ce que tu as trouvé le nom? Parce que je sais que ça peut des fois prendre du temps, et puis c'est souvent des anecdotes assez sympas.
Bah, pour l'anecdote, d'ailleurs, ça recoupe avec mon histoire avec le RGPD. Au début, mon entreprise actuelle s'appelait ETIP. C'était éthique et portabilité des données. Mm-hmm. Donc, ça faisait ETIP. C'était absolument pas vendeur pour le grand public. Du coup, on l'a renommé Origami. Ça s'écrit O-R-I-G-A-M-E, origam.fr. Et Origami, c'est très simple. On a demandé à nos utilisateurs. ETIP, c'est nul. Qu'est-ce qui vous plairait comme nom? Des gens ont proposé sur Instagram, etc.
Vous avez fait un vote ou quelque
chose
comme ça?
On a fait un vote. Ouais. Et du coup, quelqu'un a proposé Origami. C'est sympa parce que finalement avec vous l'administratif, la gestion administrative devient un jeu d'enfant, et ça me rappelle le pliage, le papier finalement devient un jeu d'enfant. Et en fait on l'a juste personnalisé avec le ME en anglais, et donc c'est devenu origami.fr.
Du coup là tu es rendu où au niveau du développement de la boîte Origami? Je crois que tu as fait une petite levée de fonds il n'y a pas longtemps, et t'as agrandi l'équipe aussi. J'ai vu que tu avais fait une page sur Welcome to Jungle pour attirer des talents.
Ouais.
Pas forcément que des stagiaires et alternants d'ailleurs, parce que t'as plusieurs salariés maintenant.
Alors, combien l'équipe? Maintenant on est 10, on a fait une petite levée de fonds qui nous a permis d'accélérer. On a levé 600 000 euros au début de l'année. On est donc 3 cofondateurs, on a quelques stagiaires et alternants qui sont vraiment top. Et là, on va justement recruter 2 CDI pour septembre, un externe et un stagiaire développeur informatique qu'on fidélise en CDI.
Du coup, moi, j'ai une question complémentaire à ça qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir comment est-ce que toi, tu sélectionnes les profils, comment est-ce que tu traites les candidatures que tu reçois. Comment est-ce que tu choisis finalement tel ou tel profil? Quels sont tes critères pour faire venir quelqu'un dans ta boîte? Quand tu reçois une candidature, quand tu regardes un CV, qu'est-ce qui est important pour toi?
Alors ça va dépendre du poste. En tout cas, on marche plutôt, on a à peu près 3 tours. Un premier tour sur CV, donc c'est nous qui faisons un tri en interne. Et ensuite un tour, on va dire, plus technique. et un tour plus personnalité. Et on s'arrange pour que si ce sont certains associés qui ont passé la technique, ce ne sont pas les mêmes qui font la personnalité au troisième tour. Comment on va sélectionner les profils? C'est simple, déjà on regarde qui a donné son CV. Mmh. Souvent les CV qui sont agréables à lire, bah, c'est beaucoup plus facile à analyser. Et on va regarder ensuite si ça match avec le poste recherché, par exemple un développeur informatique. On va regarder son parcours. Mm. On attribue, finalement, la formation est importante, mais pas tant que ça chez nous. Mm. Ce qu'on regarde beaucoup, c'est les expériences pro et tout ce qui est side project, donc un peu expérience à côté des études.
Ouais, si tu as bossé dans une association, par exemple, si tu as des choses à raconter, une petite histoire que tu portes.
En fonction des offres proposées, un dev, on va regarder s'il a fait, je sais pas, une application sur les pronos sportifs à côté, un chargé de relations utilisateurs, est-ce qu'il a fait une asso où il était en relation avec les gens. Donc, ouais. On va regarder si les soft skills, le savoir-être, correspond un petit peu à la fiche de poste que nous, on cherche. Mais par contre, moi, j'ai toujours admiré les étudiants les plus jeunes qui font beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui a travaillé en job étudiant, toutes ses études, je me dis, c'est quelqu'un qui sait se lever le matin.
Qui est déterminé, qui se prend en main. Ouais.
Et ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Ouais. Et le savoir-être vaut énormément. Donc, évidemment, le profil idéal, c'est une formation qui correspond des expériences professionnelles et un savoir-être à côté qui est confirmé par des expériences, on va dire, side project ou à côté. Ça, c'est très important pour nous. Et puis ensuite, on le reçoit. On reçoit là où le candidat. Et puis derrière, on va faire un petit entretien très rapide, technique. Mmh. Ça peut être un petit cas pratique. Et ensuite, un entretien de personnalité. Et je souligne ce point-là. L'entretien de personnalité, c'est l'entretien le plus important pour moi maintenant. Mmh. C'est la personne. On va voir si elle correspond aux valeurs de la boîte. Chez nous, c'est bienveillance, transparence et efficience. Mmh. Efficience, c'est faire beaucoup avec peu de moyens. Et dans une start-up comme la nôtre, c'est hyper important.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, ça veut dire débrouillard, etc. etc.
Ouais, voilà, qu'on a toujours une approche un peu frugale, les trois premières années, je crois. Donc, non, c'est super. Et je pense qu'effectivement, d'être focus comme ça sur les gens qui t'entourent et être sensible au profil des personnes qui te rejoignent, c'est la clé du succès, en tout cas. Oui. On maximise ses chances de continuer d'avancer. Bon, du coup, Mathilde, tu vas nous parler un peu de Maison Data. C'est à ton tour. Qu'est-ce qui t'est venu là pour comment est-ce que t'es passé du coup du métier d'avocat à créer ta boîte avec Maison Data? C'est quoi la jeunesse du projet?
Alors c'est un petit peu un concours de circonstances aussi. Moi c'est vrai que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, je peux pas dire que j'avais cette pulsion en moi d'entreprendre. Enfin peut-être que je l'avais, que je me le cachais aussi. Petit syndrome de l'imposteur. On en rigolait encore ce midi avec mes copines au déjeuner parce qu'on se disait, mais en fait, on l'a toutes, c'est dingue. Enfin, et ça persiste. Mais donc, en tout cas, j'étais auparavant avocate collaboratrice, donc j'étais presque à 6000 salariés. J'avais pas cette liberté d'action que j'ai maintenant. Et ça me manquait, j'avais envie de faire un petit peu les choses à ma sauce. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi des données personnelles, enfin des données factuelles personnelles, c'est-à-dire qu'on a emménagé à La Rochelle, on a déménagé. Mm-hmm. Donc se mettre aussi indépendante, bah, voilà, c'était l'occasion de ne pas avoir à rechercher un travail sur place, mais de tout de suite me mettre à exercer. Ça a fait suite aussi à mon congé maternité, donc en fait tout s'est un petit peu aligné pour que je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat.
Le timing était idéal,
bon, ouais. Les envies étaient là. Ouais. Et donc voilà, donc c'est comme ça que Maison Data est arrivée.
Et juste avant de parler de Maison Data, le métier d'avocat, est-ce qu'il a été impacté pendant le Covid? J'ai même pas idée de quel impact pour le métier d'avocat.
Oui, alors c'est une bonne question. Mais... je pense qu'on a, c'est une profession qui a quand même, on a continué à travailler. Alors l'activité contentieuse a été quand même bien réduite parce que les tribunaux étaient fermés. Il n'y avait pas d'audience ou alors des audiences d'urgence, c'est-à-dire plutôt dans les matières pénales, enfin des choses qui ne pouvaient pas être repoussées. Mais moi, dans mes matières commerciales, les audiences étaient tout simplement annulées. Donc c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup moins de travail, mais y a toujours du travail chez les avocats. Donc en fait, moi, j'ai continué à travailler sur les dossiers, sur des choses de fond, la rédaction des écritures et tout. Donc moi, c'est vrai que le Covid a été moyennement impactant.
Ouais, vous avez ajusté de manière... agile, voilà. Quoi.
On voyait plus trop nos clients en physique, ils venaient plus au cabinet, ou en tout cas pendant une période, mais on arrivait quand même à être en contact par téléphone.
Du coup, c'est les 5 minutes promo, là. C'est quoi la proposition de valeur de Maison Data, qu'on puisse tous comprendre?
Alors, Maison Data, en fait, notre volonté, c'est d'être des conseillers, des conseils et des DPO. On accompagne aussi bien les petites structures que les grandes. On essaye, en fait, de moderniser, c'est-à-dire de se départir un petit peu justement de l'avocature et du consulting dans des gros cabinets. Nous, on a voulu faire une offre qui faisait moins peur aux gens. On veut être plus proche de l'aspect business. On veut être des DPO pragmatiques, en fait. On ne veut pas trop faire du blabla avec nos clients. On a envie d'être proche de nos clients et d'être un peu sur le terrain avec eux. On veut répondre aux priorités business. Parfois, on a des clients qui viennent nous voir. Voilà, je vais sûrement signer avec un gros client. Il me demande d'être OK sur les aspects RGPD. Par quoi je dois commencer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Y a ça. Après, il y a des entreprises qui viennent nous voir sur un travail plus de longue durée. Donc là, on prend plus le temps d'établir la conformité.
Vous avez pu utiliser votre réseau commun, du coup, j'imagine, pour aller chercher les premiers partenaires, clients de Maison Data.
C'est complètement ça, parce que moi, c'est vrai que mes premiers clients, ça a été en fait via un petit peu le réseau nantais de start-up d'origami, d'Hugo, en fait. C'est comme ça que...
C'est vrai que quand on travaille dans un incubateur ou un accélérateur de start-up, on en voit passer des projets et des entrepreneurs.
Tout le monde est concerné par le RGPD, la mise en conformité RGPD. Si on veut lever des fonds, par exemple, quand on a une start-up, ça arrive assez rapidement sur la table par les investisseurs. Si c'est le core business, si c'est important pour le business, c'est aussi un vrai sujet. Et donc, en fait, on est déjà comme beaucoup de boîtes qui se lancent. On va déjà voir la famille, les amis, le réseau. Si tu as une question RGPD, appelle Maison Data, appelle Mathilde Hugo et on en parle. Moi, j'insiste sur un point, notre valeur ajoutée, je dirais, c'est le RGPD, c'est par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, quelle que soit la taille de l'entreprise concernée. Nous, en fait, on est passé nous-mêmes, on a eu toutes les problématiques. Donc, se mettre en conformité, on a eu la problématique nous-mêmes. Gérer une entreprise, on sait le problème. Avoir un avocat qui capte rien aux enjeux business, on a connu. On a même été managé par des gens comme ça. Nous, on veut faire tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est qu'un cookie. Google Analytics, qui est plus accessible en France, qui ne doit plus être mis en France depuis un mois, on le vit nous-mêmes pour notre entreprise. Donc, en fait, on peut aider les autres. On sait comment ça se passe. Et surtout, nous, on utilise les outils des entrepreneurs. On est sur Slack avec eux. On répond en direct. On ne met pas 3 jours à faire une consultation juridique.
Et puis, il y a un côté très pédagogue dans votre approche. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est un terme un peu barbare. On aime beaucoup les acronymes en France, je crois. Et c'est vrai que de pouvoir démocratiser et partager les bonnes pratiques simplement pour après les mettre en application, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit même... c'est important, je pense, de bien maîtriser le sujet. Et peu importe le stade d'avancée de ton projet. Et je pense que même quand on est salarié, c'est important de savoir c'est quoi la politique de confidentialité, comment sont respectées mes données, comment ça se passe peut-être lorsque je suis licencié, lorsque je négocie ma rupture conventionnelle, parce que souvent, on part d'une boîte, on a utilisé des messageries internes, on a partagé énormément de mails... je crois que moi, je n'ai pas trop idée de ce que je devrais ou ce que je pourrais demander si j'étais, si j'étais salarié, si je quittais une boîte. Mais ces enjeux-là, c'est vrai qu'on devrait... c'est important de montrer patte blanche. Et tout à l'heure, tu parlais un peu de RSE et je pense qu'il y a un lien aussi fort avec le RSE, même si ce n'est pas ce qui me vient tout de suite. Je ne sais pas si tu peux peut-être revenir un peu dessus.
Moi, je pense que beaucoup d'entreprises font la démarche aussi parce que ça montre un peu les valeurs, en fait. Donc, c'est pour ça que je parlais de RSE. C'est parce que la protection des données, c'est quand même... c'est la protection de la vie privée des gens, qui est quand même un droit fondamental. Donc, c'est en ça que je parle de valeurs. Je pense qu'une entreprise qui a ça en tête, vouloir protéger la vie privée de ses utilisateurs et de ne pas revendre des données ou des choses comme ça à n'importe qui, ça fait partie des valeurs de l'entreprise qu'elle peut véhiculer.
Ouais, c'est compliqué pour une entreprise maintenant de parler... c'est comme les entreprises qui font du greenwashing, quoi. Parler de transparence, de bienveillance, de respect de ses salariés, en utilisant les données perso, c'est terminé, quoi.
On est toujours méfiant, un peu sceptique, c'est sûr. Si vous deviez donner 3-4 conseils comme ça pour quelqu'un qui a envie d'être un peu sensible sur ce sujet-là, ou en tout cas faire les choses un peu par lui-même, au-delà peut-être de passer par une boîte comme la vôtre, parce que c'est vrai que c'est toujours, quand on est au tout début de son entreprise, ou déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire soi-même, les 3 bonnes pratiques par exemple pour commencer
Alors déjà, sur cette matière-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de documentation accessibles facilement et sur Internet. Et je pense que dès qu'on a une question un peu donnée perso, il faut taper la question. Et généralement, le site de la CNIL, donc la CNIL qui est l'autorité de contrôle, y a répondu en fait. C'est une autorité qui a vocation voilà, à former et à sensibiliser. Et donc, elle donne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contenu en ligne. Donc déjà, il y a ça. Et après, l'autre conseil que je donnerais, c'est pas parce qu'on est petit qu'il faut pas se préoccuper de la protection des données. Il y a des petites choses qui peuvent être mises en place très rapidement. Même avec les nouveaux projets, on peut très vite intégrer cette dimension protection des données. Après, oui, il y a des documents qui viennent, tu as parlé de la politique de confidentialité, une charte cookie, c'est des documents qui vont venir appuyer, et c'est important aussi, mais voilà, ça peut passer par des petits réflexes de sécurité informatique, par rapport au mot de passe, pas laisser traîner des clés USB, fermer ses bureaux, déjà ça assure un peu l'aspect sécurité. Et puis il y a une notion qui est très importante, c'est la minimisation des données, c'est-à-dire essayer de récolter vraiment les données dont tu as besoin et pas plus, nom, prénom, adresse mail des gens, et pas essayer de prendre des infos qui sont pas nécessaires.
Donc, et s'il y avait des choses à ne pas faire, moi je pense au réflexe de l'entrepreneur qui se lance, qui fait lui-même sa politique de confidentialité ou qui va peut-être la copier ailleurs chez un concurrent, qui ne met pas forcément la petite fenêtre de cookies sur son site web, c'est quoi les risques? Et peut-être qu'il y a des choses encore qu'il ne faut pas faire, que je n'ai pas citées.
Moi déjà, je dirais que l'entrepreneur qui au moins se pose la question d'aller voir une politique de conf de quelqu'un d'autre, c'est déjà qu'il prend en compte le RGPD. Donc déjà, je trouve que c'est ce qu'on appelle du privacy by design, c'est prendre en compte la protection dès le début d'un projet. Donc c'est déjà un entrepreneur qui est intéressant. Enfin, je trouve la démarche est bien. Par contre, aller copier la politique de conf de quelqu'un d'autre, que ça soit même des CGU, conditions générales d'utilisation, ou une charte cookie, nous on déconseille. Dans ce cas-là, autant aller copier celle de la CNIL et l'adapter à sa structure. On a moins de risques déjà de contrefaçon, et puis la CNIL pourra difficilement sanctionner puisqu'elle veut qu'on mette en place ces documents. Mais copier, là en plus on a des risques de contrefaçon, donc d'être attaqué sur d'autres sujets que le RGPD, qui dépassent le simple cadre du RGPD. Et surtout, ne jamais aller copier les documents, je pense, des concurrents directs, quoi. Ça peut être en plus...
C'est un coup à finir au tribunal, non?
Exactement, ouais. C'est un coup à finir au tribunal. Donc là, on s'éloigne même du RGPD, quoi.
Et toi, du coup, sur ton business, Hugo, sur la gestion des abonnements, ça s'applique comment, le RGPD, les grandes lignes?
Du coup, là, si je reprends ma casquette plutôt entrepreneur et non pas consultant, du coup, nous, on a été de l'autre côté de la barrière, comme tout le monde. OK, comment on peut se mettre en conformité au RGPD? Forcément, moi, j'avais un peu d'avance puisque c'était mon métier initial. Donc, ça a été se mettre en conformité côté politique de confidentialité, charte cookie, ce que j'appelle la vitrine. La CNIL, donc l'autorité de contrôle, peut contrôler en ligne maintenant. Si on nous contrôle en ligne, on est plutôt pas mal. Alors effectivement, quand on est avec la casquette entrepreneur, on est un peu sur un fil entre être très conforme au RGPD et puis essayer de lancer son business. Donc nous, on n'est pas parfait à 100%, mais on s'est au moins mis en conformité. Et puis côté abonnement, ce qui est important, c'est qu'on collecte beaucoup de données sur nos utilisateurs.
Ouais, j'imagine.
On leur permet de connecter leur compte bancaire à Origami. Donc on a veillé à choisir un prestataire qui respecte lui-même les normes RGPD, mais aussi la norme DSP2 sur les moyens de paiement. Donc voilà, par exemple, sur le choix du prestataire, avec mes associés, j'ai été particulièrement concerné, quoi.
Hyper clair. Du coup, Maison Data, bon, on comprend le nom et le choix, mais c'est comment est-ce que vous avez trouvé le nom de l'entité que vous avez créé tous les deux, du coup?
Ouais, je dirais que c'est vraiment un mix entre nous deux.
Si vous partagez sûrement la même maison.
Oui, tout à fait. On a la même maison, c'est vrai. En fait, le maison, c'était un peu le... Il y a beaucoup de marques qui... Maison quelque chose, maison Orso, maison...
Comme la maison du Bitcoin. Ça s'appelle CoinHouse maintenant. Peut-être qu'un jour, ça sera DataHouse.
Exactement.
Et voilà, donc c'est un peu une référence au savoir-faire français. Enfin, chez moi, ça évoque un peu ce côté savoir-faire français, un peu luxe et tout, donc que j'aime bien.
Et vous l'avez trouvé comment, tous les deux, le nom?
On a pas mal brainstormé.
C'est vrai, vous avez pris un paperboard.
Ouais. En fait, on voulait le côté tech, innovation, donc c'est dans le mot data. Le côté, comme dit Mathilde, maison, c'est vraiment le savoir-faire français. Justement, on est une boîte française, on se revendique comme telle. Et nous, on est un peu du sur-mesure. Et en ça, on ressemble un peu aux maisons un petit peu, ou même les maisons de restaurateurs un petit peu sur mesure. Mm. On a pas mal brainstormé là-dessus. On a trouvé une super graphiste qui nous a fait un super logo.
Ouais.
Léa, super taf.
Ouais.
Et du coup, on a sorti Maison Data et on a vérifié auprès de l'INPI.
Ah, c'est vrai que c'est important aussi de déposer sa marque, ouais.
Propriété intellectuelle, on a vérifié. Maison Data n'était pas pris, en tout cas pas pour pour du conseil juridique. Et, et on a lancé ça comme ça, ouais.
Je ne sais pas si j'avais raconté, mais moi, je me souviens avoir déposé ma marque la première fois pour ma première boîte là, qui n'a pas vraiment trop vu le jour. Je n'avais pas trouvé mon modèle économique, on va le formuler comme ça. Ça s'appelait Swapi, j'avais déposé à l'INPI. En fait, on s'était fait attaquer par Le Bon Coin qui avait lancé une marque qui s'appelait Sweepsy ou quelque chose comme ça. Et juste au niveau de la prononciation de l'oral, on a reçu des courriers. On était étudiants entrepreneurs avec mon associé Vincent. Et on a reçu des courriers par la poste chez nos parents, menacés de 300 000 euros de dommages. Et bon, c'était juste, les risques, ouais, voilà. Et c'est vrai que déposer sa marque, pour moi, c'était quelque chose qui me paraissait tout simple. Oui. Mais au final, c'est quand même une petite réflexion et c'est quelque chose qu'on doit faire consciencieusement. Ouais, et ça nous a un peu perturbés, je dirais, pendant 6 mois. Et au final, on a eu un médiateur ou quelqu'un, l'INPI directement, qui a été dans notre sens. Donc on était très contents. Mais je crois que dans les grands groupes, il y a des juristes, c'est leur métier, d'aller peut-être attaquer les nouvelles marques comme ça qui se créent. Et quand on est entrepreneur, c'est pas évident, parce qu'on ne pense pas vraiment à ce genre de problème.
Pour l'anecdote, c'est mon premier job, mon tout premier...
Attaquer des boîtes comme...
Mon tout premier stage, j'étais en direction juridique d'une agence de pub, et j'étais juriste stagiaire en propriété intellectuelle. Et mon but, c'était de défendre, notamment sur la partie marque, les marques qui utilisaient l'agence de pub, je ne sais pas, Citroën ou autre, pour ne pas les citer. Et on défendait ces marques-là. Et donc, si quelqu'un avait déposé à l'INPI, tous les jours, je faisais de la veille. Et un nom similaire qui pouvait faire l'objet, finalement, d'un parasitisme, ou en tout cas, être similaire à une marque qu'on défendait, et je faisais ces fameux courriers. Donc, ça se trouve, je t'ai envoyé un courrier.
C'est vrai que ce n'est pas vraiment agréable.
Non, c'était il y a longtemps, mais...
Ah, super, ça fait déjà 40 minutes qu'on échange ensemble. Je voulais juste avoir un peu votre vision sur les prochaines années concernant d'abord peut-être Maison Data et puis après Origami. C'est quoi comment est-ce que vous voyez la suite là? Parce que c'est assez récent quand même le projet.
Oui, alors Maison Data officiellement a vu le jour en début d'année, là, 2022, en janvier. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est tous les deux dessus. C'est vrai que pour l'avenir, pourquoi pas penser à agrandir un peu l'équipe, à faire venir d'autres DPO avec nous pour être un peu plus gros. Donc ça pourrait être cool.
Une référence sur le sujet, peut-être.
Oui, tout à fait, ouais.
Et j'ai oublié de vous demander, du coup... Comment est-ce que vous faites pour être tous les deux entrepreneurs, mariés, sur un projet similaire? C'est quoi les challenges du quotidien? C'est peut-être la meilleure question, mais je la pose à la fin. J'aurais dû commencer par celle-là.
Non, en fait, on dit souvent en rigolant qu'on n'a pas deux entreprises, mais trois. Ouais. Notre troisième, c'est l'entreprise VIE, qui est en fait l'entreprise de gestion de la maison, de la famille et de la petite. Donc voilà, non, en fait, c'est quotidien, les questions qu'on se pose et comment on pourrait faire mieux. Et est-ce que, voilà, c'est pas toujours évident, mais...
Et je pense que, Paul, toi, tu connais ça encore mieux que nous, mais les frontières du travail se sont un petit peu estompées ces derniers temps. En plus, on fait beaucoup de télétravail. Donc, il faut savoir que, en bas, moi, je travaille sur Origami, donc une fintech pour les particuliers qui a une vocation à devenir un outil européen. Et Mathilde, à l'étage, travaille sur de la mise en conformité RGPD, de grands groupes, start-up, scale-up. Et au milieu, on a notre petite fille qu'on récupère à la crèche, etc. Donc, honnêtement, c'est une organisation. Heureusement que Google Agenda existe. c'est quand même une sacrée orga. Ça se fait, mais c'est pas évident, quoi. Il faut mettre des frontières. Surtout, moi, je sais que pour moi, c'est difficile. À 20h, on arrête de travailler, on profite de la petite, etc. etc.
Est-ce que toute ton équipe est en remote, en télétravail, ou ça dépend, vous voyez quand même de temps en temps? Vous avez un bureau à côté, au Palace, non?
Ouais, nous, on est au Palace, Place Gralin, à Nantes. C'est notre siège social. Après, il faut dire qu'on a un ADN très, très fort en remote, télétravail. On a même un membre qui est à Nîmes. Moi, je suis à La Rochelle, mais je viens très souvent à Nantes. Donc, on a quand même un statut hybride. Mais au milieu de tout ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas bien peut-être expliqué, mais moi, j'ai 30% de Maison Data et j'interviens sur les sujets d'expertise technique sur Maison Data. Donc, je me libère du temps pour ça. Et en même temps, je suis à 110% sur Origami, la fintech. Donc tout ça, il faut l'organiser.
C'est vrai que ça fait 140% du coup.
Ça fait 140% pour la blague. Du coup, je travaille un peu le week-end. Mais pareil, c'est pas bien non plus pour profiter de la petite et tout. Mais on arrive, c'est une organisation. Déjà, avoir deux boîtes, c'est pas évident. Et là, effectivement, comme dit Mathilde, on a aussi notre vie perso. Il faut concilier tout ça, quoi.
Et ton objectif, du coup, toi, Hugo, à moyen long terme avec Origami, comment tu te positionnerais sur le marché là, comment tu définis d'ailleurs ton marché, je suis curieux, au niveau de la gestion des abonnements. C'est du B2C, c'est le marché...
Nous, on a un marché qui est clairement du B2C mass market, donc grand public. On a à mi-chemin entre les comparateurs de prix, les agrégateurs budgétaires pour les particuliers, les assistants administratifs, puisqu'on permet de gérer son budget, mais aussi optimiser en quelques clics. Si tu veux passer d'EDF à un autre fournisseur, on s'en occupe pour toi de A à Z. Donc c'est le marché des solutions de gestion des abonnements. C'est un marché qui est développé aux États-Unis, très récent en France. Nous, c'est clair et net, on a une ambition européenne. On veut devenir la référence en matière de santé financière pour les particuliers. On veut qu'à terme, tout le monde gratuitement ait dans sa poche, sur son application Origami, l'ensemble de ses charges fixes, de son couple, de son foyer. Et en quelques clics, si on voit qu'on n'a pas la meilleure offre, Origami nous le dit et hop, on switch pour les gens. On a vraiment une vocation à devenir le compagnon, l'assistant des abonnements.
Très clair.
Donc ça veut dire partir en Europe fin 2023, à commencer a priori par le sud de l'Europe, quoi.
Ok, super. C'est des belles ambitions.
Ouais.
Un message pour des étudiants, des jeunes qui aimeraient peut-être se renseigner sur le métier de DPO. Qui vient de... D'ailleurs, la traduction en français, c'est quoi ? C'est délégué pour la protection...
Des données.
Des données, ouais. Il y a des écoles qui existent d'ailleurs pour ce métier ?
Alors, en fait, c'est vrai que c'est un peu la question du moment parce que c'est plutôt des études juridiques qui mènent à ce métier. Mais en fait, on voit aussi qu'il y a des profils plus techniques, informatiques, qui accèdent à des postes de DPO en interne. Donc en fait, il n'y a pas de formation, enfin, il y a des masters. Hugo, toi, c'est ton master en droit du numérique, ça mène un peu naturellement vers ce métier-là. Mais c'est aussi un métier qui s'apprend sur le tas, dès lors qu'on a quand même un background juridique, technique, ou l'un ou l'autre. C'est vrai que c'est plutôt ces profils-là qui sont privilégiés.
On est clairement sur un nouveau métier. Du coup, comme souvent sur les nouveaux métiers, il y a soit des écoles, soit des entreprises qui ont essayé de rattraper un petit peu le retard. Donc, il y a de plus en plus de formations privées.
Ok, on peut faire comme un diplôme en ligne peut-être ou une certification ?
Il y a ce qu'on appelle un diplôme universitaire. Alors, je ne sais plus, mais il y a des conditions. Hein. On doit avoir au moins une licence pour avoir ça. C'est un diplôme universitaire, ce n'est pas un master. Mais on a un DU, je crois, à Créteil ou je ne sais où, qui permet notamment de faire ça en ligne. Il y a le MOOC de la CNIL qui permet de le faire.
Qui vient de ressortir en ligne, là, qui était indisponible. Ouais. Et il y a la certification, mais qui est autre chose. En fait, une fois qu'on a déjà un peu pratiqué, on peut passer la certification en tant que DPO. Donc, c'est reconnu par la CNIL. Et donc, ça te met un tampon supplémentaire. Voilà. Donne du crédit.
Bon, il y a de quoi faire.
Ouais, tout à fait.
Et en termes de package, je sais qu'on n'aime pas trop parler de ces sujets un peu financiers parfois, mais un jeune qui voudrait se lancer sur ce métier-là, c'est quoi les rémunérations en tant que DPO ? Ça peut varier, j'imagine. Souvent, un DPO, c'est plutôt dans une boîte bien avancée, hein, peut-être un grand groupe.
Oui.
Mais c'est quoi là, les fourchettes de salaire, généralement, sur ce métier-là, vous savez ?
C'est très hétéroclite, en fait, parce que ça va dépendre de... si on vraiment parle du DPO en interne, en CDI, dans une entreprise, ça va varier sur la taille de l'entreprise et ça va varier sur le poste stratégique ou non. Typiquement, on n'est pas rémunéré pareil quand on est le DPO de Google France ou de Europcar que le DPO d'une jeune PME à Nantes, par exemple. Donc, ça peut varier, à mon sens, entre 25K et 100K, quoi. Enfin...
Par contre, un consultant à son compte, c'est vrai qu'il peut peut-être faire de nombreuses missions. Vous connaissez le tarif, le TJM, comme on dit vous avez des fourchettes
Alors ça, ça dépend un peu de chaque missions, consultant, ça dépend des missions. C'est vrai que nous, notre particularité, c'est que comme on voulait s'adresser à des entreprises plus jeunes, on a voulu justement, pour pas qu'elles se fassent assassiner par un TJM, qui peut être parfois un peu important, on a proposé un pack, un peu starter pack de la conformité, où on propose des tarifs un peu plus doux, on va dire, pour entamer sa conformité, quoi.
Et c'est vrai que c'est une prestation aussi qui peut être prise en charge par des régions, par des premiers leviers de financement, de subventions qu'on a lorsqu'on monte une boîte. C'est ce qu'on a mis en place aussi avec Grimp. Et d'ailleurs, je remercie la Technopole de Vannes pour nous accompagner sur ce sujet. On a une prise en charge, je crois, à hauteur de 50% sur sur le montant de la prestation. Et ce qui est génial, c'est que du coup, vous proposez une formule plutôt d'abonnement. On a un accompagnement potentiellement tout au long de l'année.
C'est
ça. Et ça, c'est agréable parce que c'est vrai que de base, moi, je me disais que c'était quelque chose qu'on faisait une seule fois. On faisait ça. Je reviens encore sur la politique de confidentialité, sur ces cookies. Mm. C'est une prestation vraiment à court terme. Mais au final, tout au long de l'année, on peut avoir des sujets avec des nouveaux partenaires, des nouveaux clients, une mise à jour sur son site internet, Google Analytics avec des nouvelles lois. Mm. C'est vrai que c'est bien d'avoir un point de contact et un support comme le vôtre. Dernière question du podcast. Pourquoi est-ce que le futur, c'est maintenant pour vous?
Je commence.
Allez, regarde.
Allez, vas-y.
Allez. Bah moi, je dirais, enfin, c'est une question qui est presque philosophique, mais en tout cas pour le sujet professionnel, le futur se prépare maintenant. Moi, je me souviens d'une, enfin, j'ai une anecdote, mais je me souviens d'un avocat quand j'étais jeune étudiant en licence 2, quoi, qui m'avait donné déjà des conseils et que j'essaie d'appliquer maintenant, et qui m'avait dit dès maintenant. Tu dois te préparer à ton employabilité, je ne sais pas si ça se dit.
Si, ça se dit.
Et lui, il m'avait dit, en gros, il y a plusieurs choses, mais je les ai un peu résumées. Il y a trois pans, c'est se former, être hyper curieux. Donc, en gros, c'est pas parce que tu es étudiant en licence 2 que tu ne peux pas faire un MOOC à côté, mm-hmm. que tu ne peux pas faire une formation, un diplôme universitaire en plus, ou même écouter des vidéos YouTube sur un sujet, je ne sais pas, le SEO, la rédaction web. Il n'y a pas de formation pour ça vraiment, à part YouTube, quoi, ce genre de choses. La deuxième chose, c'était se faire des expériences hyper tôt en stage, mmh. ou même en boulot étudiant. Moi, je sélectionne, comme je disais tout à l'heure, des gens en entretien parce qu'ils ont travaillé à côté. Mmh. Donc, même si on est en licence 2, livrer des pizzas le soir, bah, moi, je trouve que c'est 5 ans plus tard, c'est hyper important sur un CV. Et le point numéro 3, c'est se différencier, c'est-à-dire être dans un secteur porteur, c'est bien. Mais en fait, il y aura même sur le RGPD DPO, qui est un métier en vogue, il y a toujours d'autres gens. Par contre, c'est d'avoir des spécialités. Donc, par exemple, ça veut dire dès maintenant travailler un secteur de prédilection. Je ne sais pas, le luxe, ou une compétence de prédilection, quoi. Je ne sais pas, les cookies pour le RGPD, qui est déjà une branche encore plus spécifique du RGPD. Donc, c'est là où c'est un peu dur, mais c'est finalement dès maintenant se préparer à être un généraliste, mais trouver déjà des préférences un petit peu très spécifiques. Parce que finalement, quand on est un spécialiste et qu'on est trois personnes à être douées sur la mise en conformité des cookies en France, bah, on trouvera dans son futur un boulot, quoi.
Mmh, clairement.
Voilà.
Et toi, Mathilde, qu'est-ce que t'en penses?
C'est dur de passer après un exposé aussi brillant.
Et en plus, j'ai vu, il a pris des notes, points. Il s'est préparé.
Il a trois points et tout, c'est hyper clair. Moi,
Tu dévoiles.
Ça évoque beaucoup de choses, mais alors ça n'a pas beaucoup à voir avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais ouais. Quand tu me dis le futur, c'est maintenant, tout de suite, moi, je pense à l'aspect écologique, c'est marrant. Mais,
ouais.
On dit qu'on prépare, en fait, que ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prépare les actions du futur et que ça peut avoir des retentissements plus ou moins graves. On le voit au niveau écologique. Mais c'est vrai, ça s'applique pour tout. C'est-à-dire que toutes les petites actions qu'on mène aujourd'hui serviront ou pas, mais auront un impact sur notre futur. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours garder ça en tête et tout sert, toutes les expériences se servent.
Mmh, bien sûr, parce que je crois qu'un recruteur ou même n'importe qui, on achète tous un peu des histoires et c'est important de créer sa propre histoire. Bah, écoutez, je vous remercie, j'ai passé un super moment, je suis ravi de vous connaître un peu plus. Merci aussi pour l'accompagnement que vous avez avec le projet qu'on porte avec Grimp.
Merci
et puis moi, je vous souhaite une belle continuation.
Bah, merci
à bientôt.
Paul, à bientôt.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt !